et par le fait même que c'est la réalité qui s'impose à l'intelligence dans la pensée analogique. En définitive, j'aboutis à un être premier qui me dépasse et que je contemple. Alors ça, je crois que c'est très important. Et comment on arrive à ces deux aspects? C'est que pour Hegel, il cherche la vie de l'intelligence. Aristote cherche ce qui détermine l'intelligence, l'intelligence face à ce qui est. Il montre que la vie de l'intelligence n'est pas l'être. Donc, comprenons bien, ce que l'intelligence atteint, elle l'atteint selon un mode intentionnel. Qui est abstrait, l'universel. Ce que l'intelligence saisit est la mesure de la réalité. C'est pour ça que Hegel ne dépasse pas ce que Kant avait dit lorsqu'il dit et lorsqu'il parle de l'aspect transcendantal de la subjectivité. La subjectivité transcendantale, c'est-à-dire l'intelligence vue du côté de celui qui connaît, mesure la réalité, dépasse la réalité. des aspects différents. Il y a la connaissance biologique, il y a la philosophie du vivant. Le philosophe respecte la science et le philosophe demande aux savants de respecter la philosophie. Parce que la philosophie a un droit d'aînesse sur la science. Et que la philosophie prétend aller plus loin, puisqu'elle peut saisir ce que c'est l'esprit. Alors que le savant ne saisit que ce qui est mesurable, donc toujours ce qui est quantifié, ce qui est lié à la quantité et à la matière. Donc ça, c'est très très important de saisir les deux. Vous comprenez que si ma connaissance philosophique ou scientifique est adéquate au réel, la vérité, c'est tout simplement de découvrir ce qu'est la réalité, c'est-à-dire ma connaissance. Tandis que si ma connaissance n'est pas adéquate au réel, la vérité, c'est que ce que je dis est conforme au réel. Partiellement conforme au réel. Je dis quelque chose de vrai, mais je ne dis pas la réalité. Ma connaissance n'est pas une connaissance qui crée la réalité. C'est une connaissance qui essaie de comprendre la réalité, surtout quand il s'agit de l'homme et quand il s'agit de l'esprit. Je voudrais maintenant... Attends, encore un mot. C'est que, une fois que je reconnais que l'intentionnalité n'est pas la réalité, et que mon intentionnalité implique une abstraction pour aboutir à l'universel. Le propre de la logique, c'est d'étudier l'universel. La logique n'étudie pas le contenu de ma pensée, mais ma manière de saisir la réalité. L'universel. L'universel est un être de raison, parce que c'est mon intelligence qui l'a fabriqué. Vous n'avez jamais rencontré l'universel. Vous ne le rencontrerez jamais. Mais il est dans ma pensée. Dès que je pense intellectuellement, je sais que j'atteins l'universel. L'universel, saint Thomas le définit, unum ex multis. Unum ad multa, unum in multa. L'universel provient du multiple. L'universel est vers le multiple. L'universel est dans le multiple. C'est très joli comme définition. Unum ex multis ad multa in multa. Vous voyez, tout simplement, vous prenez les trois propositions. Ex, ad, in. C'est le passage, c'est la relation. L'universel, c'est la relation de l'un au multiple. C'est une relation que l'intelligence crée. L'intelligence peut créer des relations. Elle ne crée pas des êtres existants et subsistants. Mais l'intelligence crée des relations. C'est la grandeur de l'intelligence. Elle crée des relations et ces relations sont toujours en relation avec la réalité multiple. Et elle a cette capacité extraordinaire de rassembler le multiple dans l'universel. Donc elle fait l'unité. L'intelligence est capable de faire l'unité, non pas une unité réelle, mais une unité intentionnelle. On est dans l'ordre de l'intentionnel. Maintenant, nous allons regarder la dernière partie de notre réflexion sur la philosophie du vivant. Thank you. que ça existe, mais c'est pas pour moi. J'ai déterminé ma vie autrement. Ou bien, il se laisse amollir. Après tout, je peux quand même la regarder, je peux quand même m'intéresser à elle. Je sais bien. Puis petit à petit, son cœur y brille. Il arrive un moment. Oui. Dans les années 68, je me souviens, quelqu'un que je connaissais, un prêtre, m'a dit, vous êtes fidèle à la vie. Je dis, mais quoi, à la vie? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez déjà choisi. Ah oui, mais je ne savais pas que cette personne existait. Quand j'ai choisi. Oui. Alors on se donne une excuse. On se donne une excuse avant qu'on se laisse prendre par ça. Alors qu'en réalité, si on a choisi, on a choisi. On a choisi une orientation de vie. Oui. C'est ça que j'appelle ce terrain volcanique qui est en nous. Qui relève de la passion. C'est la passion qui obnubile l'acte libre. Et je suis fidèle à la vie, c'est-à-dire je suis passionné, tout simplement. C'est pas fidèle à la vie, je suis fidèle à cette passion qui me prend, qui me saisit. Mais alors, vous voyez, autour de la volonté, il est très important de voir comment naît la liberté. Surtout aujourd'hui. Je crois qu'il faut toujours distinguer la liberté à l'égard d'un choix d'amis et la liberté de l'artiste. On confond constamment les deux. Sartre, grand philosophe de la liberté. L'artiste est libre de réaliser telle œuvre ou pas telle œuvre. Il est libre. Et sa liberté repose sur son inspiration. L'ami est libre de choisir son ami. Sa liberté repose sur son amour. Vous voyez, il y a une liberté de compétence et une liberté d'amour. Et ce n'est pas les mêmes. La liberté de compétence, c'est la liberté de l'artiste. Je suis capable de réaliser cette œuvre. Je sais, je peux la faire. Et la liberté de l'amour, c'est la liberté morale. Qui repose sur la finalité. J'aime et je suis libre de choisir tel ou tel moyen en vue d'atteindre ma fin. La liberté joue au niveau de l'exercice. Je suis libre de m'attarder à cette réalité qui m'attire, à ce bien qui m'attire, à cette personne que j'ai rencontrée. Je suis libre aussi de choisir. Liberté de choix, liberté d'exercice. Mais la liberté n'est jamais première. Voilà ce qu'il faut comprendre. Parce que ça, c'est la grande confusion. Depuis Descartes. Pour Descartes, la liberté est première et elle est même au-delà de l'amour. Pour aimer, vous êtes libre. Je crois que la réalité, c'est pas ça. Pour être libre, il faut aimer. Et être compétent dans l'ordre artistique. Parce que si vous mettez la liberté au-dessus de l'amour, vous tuez l'amour. L'amour regarde le bien. La liberté, c'est le primat du sujet qui aime et qui est libre d'aimer. Et là, il y a un problème très important à saisir, c'est que de fait, la liberté morale de ma responsabilité, de mes actes volontaires, repose toujours et se fonde toujours sur un amour. Et la liberté de l'artiste abstraites, je n'en ai pas d'expérience. J'ai l'expérience d'un acte libre. Et je peux analyser un acte libre. Et je vois parmi mes actes libres, il y a des actes libres au niveau propre.